OK, on va continuer notre série de glorifier Dieu dans votre corps. On était à je pense, on était dans la troisième partie de les huit séries de versets de la Bible qui concernent nos devoirs envers notre corps. Alors, on rappelle l'analogie que l'auteur utilise. La corde à sept brins, c'est les principes bibliques sur lesquels on se doit de s'appuyer si on veut avoir une bonne théologie du corps. Et les huit perles, c'est l'ensemble de groupes de versets qui nous donnent des précisions concernant les devoirs que l'on a envers notre corps. Alors, on a regardé plusieurs. Je pense qu'on était rendu au sixième ou au septième. C'était pas ça. Ah, c'est le huitième même. Alors, on était rendu au huitième, la huitième perle. Alors, la huitième perle, c'est simplement la suivante, c'est le privilège et la responsabilité d'être le sel et la lumière de la terre autour de nous. Alors, on le sait, le Seigneur nous a dit dans Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16, qu'on se doit d'être le sel de la terre et la lumière. Parce que le sel, on le sait, anciennement, quand tu voulais conserver de la viande, tu mettais ça dans le sel, ça se conservait. Le sel empêche la corruption. Donc, il nous dit que c'est nous qui empêche la corruption autour. Donc, on la réduit un petit peu. Et la même chose pour la lumière. Alors, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, le but de ce groupe de versets-là a pour but de nous faire prendre conscience du rôle qu'on a pour les gens qui nous regardent vivre autour de nous. S'ils voient un véritable changement dans notre manière de vivre, dans notre manière de toute chose, et on devient le sel de la terre, mais s'ils ne font pas aucune différence entre la manière dont on vit et la manière dont les païens vivent, pour eux, on est pareil comme les autres. Alors, quelque part, c'est une grave responsabilité que le Seigneur nous donne. Et une des responsabilités, bien sûr, ce n'est pas la seule, prendre soin de notre corps, il y a aussi la sanctification, la crainte de Dieu et plein d'autres choses, mais ça en est une, importante. Je dirais, elle est d'autant plus importante si on considère ce qui se passe autour de nous, à la fois au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, mais plus particulièrement dans l'Occident. C'est épouvantable, comment c'est rendu un très, très, très grave problème. Et comme on l'avait déjà mentionné dans les leçons précédentes, on a beau dire, oui, on observe ça chez les païens, pourquoi on ne voit pas ça chez les chrétiens? Oh, c'est pas le cas. Mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus, puis penser qu'on peut être chrétien pour obéir au Seigneur. Parce que quand on n'obéit pas, c'est peut-être un signe qu'on n'est pas chrétien véritablement. Et quelque part, ça devrait nous faire réfléchir beaucoup. On a aussi dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 14 et 15. « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde y portant la parole de vie. » Ils nous disent qu'on vit dans une génération, je pense qu'il n'y a pas personne qu'on a besoin qu'on puisse démontrer ça, on le voit autour de nous. Mais nous, il nous dit que nous, on se doit d'être sans reproche, sans tâche, enfants de Dieu, irrépréhensibles. Puis il nous dit qu'on est au sein de laquelle, il parle de la société, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que si on regarde l'ensemble des églises que vous connaissez. Moi, ceux que j'ai connus, je n'ai connu peut-être une dizaine en tout. Là. Est-ce qu'on est si brillant que ça aux yeux des païens qui nous entourent? Moi, je trouve que c'est une bonne question à se poser. La Bible dit que c'est ça qu'on devrait être. Si on ne l'est pas, à quelque part, c'est parce qu'il y a de la désobéissance dans nos vies. Il y a une inconscience au niveau du péché qu'on fait et qu'on ne prend pas les moyens nécessaires et qu'on n'implore pas la grâce de Dieu. Moi, je suis convaincu que quoi que ce soit dont on prend conscience au point de vue du soin de notre santé ou de n'importe quelle autre affaire dans nos vies, si on essaye de le changer par nous-mêmes, c'est sûr qu'on est voué à l'échec total dès le départ. Ça me fait penser aux résolutions du Nouvel An. Tu prends ça le 31, puis le 3 janvier, tu es déjà décroché. Mais quand on décide quelque chose, disons qu'on prend conscience d'un péché quelconque dans nos vies, puis là, on se dit, bon, OK, moi, cette heure-là, c'est fini, je change. À partir de demain, ça va y être. Là. Mais souvent, dès le lendemain, il n'y a rien de changé. Il faut prendre conscience, comme on a parlé des deux appuis-livres au début, hein, dans nos leçons, se rendre compte qu'on ne changera rien en se basant sur nos efforts propres et on va avoir besoin du Saint-Esprit, de Dieu lui-même, pour nous aider à accomplir accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse dans nos vies, mais qu'on se rend compte que même si on essaye par nous-mêmes, ça ne marche pas. Alors, il faut vraiment s'humilier et dire, Seigneur, je veux changer telle affaire, mais je ne suis pas capable. Il va falloir que ce soit toi qui m'accordes la grâce de le changer, sinon ça va rester tel quel. Et le Seigneur, c'est ça qu'il veut, qu'on en arrive au point où on reconnaît notre impuissance. Il dit, sans moi, c'est une petite phrase, on l'a sait par cœur, on l'a entendu des centaines de fois. Mais quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est en train de parler de choses spirituelles. Toutes les choses spirituelles, si on ne s'adresse pas à lui pour nous faire la grâce de le changer, ça ne changera pas. C'est aussi simple que ça. Alors, quelque part, c'est humiliant, par exemple, de reconnaître qu'on aimerait changer des choses, puis on se rend compte qu'on n'a pas les forces, on n'a pas la capacité, on n'a pas la persévérance pour demeurer. Mais l'Esprit de Dieu, lui, peut vraiment changer un paquet de choses en nous. Je me souviens d'avoir entendu parler, je travaillais à Sherbrooke dans le temps, chez Zellers, puis il y avait un gars qui s'occupait de la réception de marchandises, puis il a connu un gars qui, dans sa jeunesse, était vraiment un bum, un trimpe, un soulon, un courroyeux de jupon, il avait à peu près toutes les vices possibles et imaginables, comme c'est le cas pour plusieurs d'entre nous, en tout cas. Et là, il est devenu chrétien, et il a tellement changé, que tout le monde qui l'avait connu avant disait, « Peux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec lui? » On ne le reconnaît plus. Il allait au culte, il ne buvait plus, il ne fumait plus. Et il parlait du Seigneur constamment et avait la joie dans son cœur. Les gens observaient quelque chose de concret dans la vie de la personne. Ça devrait être la même chose pour chacun d'entre nous. Hein? Parce que si... Avec les années, des fois, on se refroidit un peu. Puis les gens ne voient plus les qualités chrétiennes en nous. C'est une honte pour nous. Parce que ce n'est pas la faute à Dieu, parce qu'il nous a donné absolument tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, comme il dit dans 2 Pierre. C'est un chapitre qu'on devrait relire et relire et relire. Il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Mais s'il nous l'a donné et qu'on ne l'utilise pas, ça ne donne pas grand-chose. Ça ne change pas. Alors, on va regarder aussi Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 20. Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit, ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Quand on lit on parle d'ignorance, d'intelligence obscurcie, d'endurcissement du cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution. La dissolution, c'est un peu comme je vous parlais, le gars qui buvait, il fumait, courait galipote, il se droguait. C'est ça la dissolution. pour commettre toutes sortes d'impuretés. Et regardez les mots que la Bible utilise pour parler de ça. Avec une ardeur insatiable. Insatiable, c'est, on parle d'un appétit insatiable, ça veut dire tu manges, tu n'es jamais satisfait, mais les autres qui pêchent ne sont jamais satisfaits, ils en veulent toujours plus, ils s'enfoncent de plus en plus. Alors, les trois derniers groupes de versets qu'on a vus désignent la huitième perle de notre collier. Ces versets-là soulignent qu'une de nos fonctions centrales et de nos responsabilités dans la nouvelle création de Dieu, dans un monde déchu, est de démontrer et de manifester la validité et la puissance transformatrice de l'Évangile. C'est notre responsabilité. Parce qu'on n'a pas on n'a pas de raison qu'on ne soit pas comme le Seigneur veut qu'on soit. Parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si on ne l'est pas, c'est parce qu'on n'utilise pas ce qu'il nous a donné. Tout simple que ça. On est appelé à être des lumières brillantes dans ce monde de ténèbres. Nous sommes appelés à être le sel qui retarde et empêche la putréfaction du monde méchant qui nous entoure. Parce que si tous les chrétiens vivaient à la hauteur de ce que Dieu commande dans les Écritures, avec une vie très sanctifiée, une grande crainte de Dieu, une pratique de l'Évangile, les gens ne regarderaient plus de la même façon. Je parlais avec Raymond quand je suis allé à Québec. Quand même, Raymond est quand même de l'expérience. Je pense qu'il en a encore plus que moi. Je vais avoir 40 ans bientôt. Moi. En janvier, je vais avoir 40 ans de vie chrétienne. Je pense qu'il en a encore un petit peu plus que moi. Je pense qu'il en a 42, je ne me trompe pas. On parlait de la perception qu'on a des églises actuellement. Raymond, il a beaucoup voyagé aux États-Unis, au Canada. Des églises, il en a vu beaucoup plus que moi. Et lui, il trouve que l'Église est dans un état pitoyable. Pas drôle d'entendre ça de la bouche de pasteurs qui visitent des églises et qui se rendent compte que l'état de l'Église n'est pas tel qu'elle devrait être. C'est honteux. Pour nous, c'est honteux. Parce que ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas donné tout ce qu'il fallait, mais ça me fait penser, quand on regarde l'Ancien Testament, et qu'on regarde celui qui était revenu pour bâtir les murs de Jérusalem, comment il s'appelle, le tueur, Néhémie, exactement. Néhémie, quand le roi lui a permis d'aller reconstruire les murs, il est arrivé, il s'est promené la nuit, il a regardé les murs de Jérusalem. C'est un peu comme la même constatation que nous, qu'on regarde, on se dit, l'Église est dans un état pitoyable. Et qu'est-ce que Dieu lui avait mis à cœur? Reconstruis, mon ami, si tu veux que tout est à terre. Tu vois, reconstruis. Et là, on a vu qu'il y avait des ennemis qui s'attaquaient à eux, qui voulaient les empêcher de réussir, mais ils ont réussi quand même. Alors, je pense que la situation, quand on se rend compte qu'il y a deux manières de voir ça. Ou tu regardes ça, puis les deux bras te tombent, tu dis rien à faire. Ou tu regardes ça, puis tu dis, avec l'aide de Dieu, on peut reconstruire notre vie chrétienne personnelle et aussi la vie des églises locales, et prier pour ça de plus en plus. C'est pas quelque chose qui est à notre honneur de voir des constatations de vieux pasteurs comme ça. Moi, ça te brise le cœur quand tu entends ça, puis tu dis, les gens de 42 ans de vie chrétienne, ils se promènent dans toutes les églises, puis ils se rendent compte que l'église est dans un état pitoyable. C'est pas pour rien que le Seigneur a envoyé son peuple 70 ans à Babylone. C'est parce que quand le peuple de Dieu obéit pas, Dieu punit. Dieu amène des difficultés dans la vie, non seulement des individus, mais dans l'ensemble des églises. Quand ça va mal, pourquoi, v'là 25, 30, 40 ans, les gens se bousculaient pour aller dans les écoles bibliques, pour devenir des pasteurs, pour devenir des missionnaires, puis aujourd'hui, ne plus. Qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est refroidi. Alors, notre marche visible se doit de démontrer avec force la futilité d'un style de vie privé de la grâce souveraine de notre grand Dieu. Regardez bien les chiffres que je vais vous donner. C'est assez spécial, vous faites réfléchir. L'Amérique du Nord et le Canada présentent des preuves indéniables des abus que les gens imposent à leur corps. Parmi les problèmes, obésité, innombrables maladies. Les hôpitaux craquent littéralement sous le poids des maladies. Désordre moral, on en voit tout autour de nous autres. Sexualité débridée, abus de drogue, tous des péchés reliés au corps. Aux États-Unis seulement, écoutez bien ça, aux États-Unis seulement, on estime à 91,4 milliards de dollars les coûts reliés à l'obésité en 2008. Regardez bien, mais là, c'est pas fini, là. Et les projections pour 2018 à 465,6 milliards de dollars. 91 allait à 465, c'est quasiment 5 fois plus. En combien d'années? 2008, 2018, 10 ans. Dans 10 ans, les États-Unis ont dégénéré au point que ça avait d'écraser littéralement l'économie de tout le pays, tellement c'est rendu grave. Et il ne faut pas penser qu'on regarde ça de l'extérieur, puis on dit « Oh oui, ça, c'est les Américains, pas nous autres. » Nous autres aussi. Puis la vie qu'on observe autour de nous, ça finit par avoir une influence très, très, très importante dans nos vies, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Les valeurs païennes du monde nous influencent et non seulement nous influencent notre pensée, mais influencent aussi notre comportement. Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 20. « Je vous l'ai dit souvent, et je vous le répète maintenant en pleurant. » Paul, il parle, il pleure en pleurant. « Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre, ils sont fiers de ce qu'ils devraient leur faire honte, et ils n'en ont en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Leur Dieu, c'est leur ventre. Mais on est rendu là, en Amérique du Nord, en Europe, je dirais, en Occident sûrement. Dans un pays asiatique, je ne sais pas, là, parce que probablement qu'ils ne peuvent pas avoir d'abus de nourriture parce qu'ils crèvent de faim pour beaucoup de pays. Alors, ça devrait tout cela nous faire prendre conscience que l'exercice biblique et responsable de notre devoir d'administrer nos corps peut valider ou invalider la valeur de l'Évangile lui-même aux yeux de ceux qui nous observent. Comprenez-vous ça? Ça peut valider ou invalider la valeur de l'Évangile aux yeux de ceux qui nous observent. Les gens des États-Unis, là, qui voient que les gens des églises, là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au monde qui sont autour, là. Pensez-vous que c'est quelque chose qui leur fait dire « Oh, moi, je devrais devenir chrétien. » Regarde ça, le changement qu'on voit chez eux. Alors, le pasteur Albert N. Martin, c'est le livre que j'ai utilisé pour bâtir ça, se lamente que, selon lui, les pasteurs nord-américains ont baissé les bras face à cet immense péché et à cet immense problème. Il constate que plusieurs ont des manquements évidents qui sont visibles dans l'état de leur propre corps. Moi, le premier. En ce qui concerne le contrôle de soi, d'abnégation et de renoncement à soi-même et l'entrée des valeurs du monde dans l'Église de Jésus-Christ à cause de toutes les pressions sociales et publicitaires et le manque de vigilance dans nos habitudes de vie. Les Saintes Écritures ne nous enseignent-elles pas que nous devrions être des modèles? 3 versets. Titre 2, verset 7. « Donnant toi-même en toute chose... » Il parle à un pasteur. C'est un pasteur qui parle à un autre pasteur. Il lui dit « Donnant toi-même en toute chose l'exemple de bonnes œuvres par la pureté de la doctrine et la gravité. » 1 Timothée, chapitre 4, 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Encore là, c'est Paul qui parle à un autre pasteur, Timothée. « Mais sois le modèle des fidèles par la parole, par la conduite, par la charité et par l'esprit, par la foi, par la pureté. » Quand on entend ça, on est porté à dire « Ben oui, toi, t'es pasteur, donc ton poids est plus lourd. » Oui, il est plus lourd. Mais ça parle en même temps, ça parle pas juste au pasteur, je pense, le verset. Là. Il parle aussi aux gens en général. On se doit d'être des modèles. Le pasteur, ça doit être un modèle de ceux sont en avant de lui. Et les gens qui sont dans l'Église, ça doit d'être les modèles pour les gens qui sont autour d'eux. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 3. « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances du Christ, et qui est aussi communication de la gloire qui doit être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, exerçant la surveillance non par contrainte, mais de bon gré, non pour des gains honteux, mais de bon cœur, non comme dominant sur les héritages, mais en étant les modèles du troupeau. » Quand tu lis ça, puis si vraiment tu lis ça sérieusement, dans le fond de ton âme, il y a quelque chose qui se dit, « Oh Seigneur, c'est lourd. C'est lourd. » Alors, moi, ce que je disais tantôt, certain que je ne serais pas capable de changer quoi que ce soit par moi-même. Alors, quand on prend conscience de ça, la seule chose à faire, c'est de se tourner vers Dieu et de lui demander de nous donner la grâce, la force de changer les choses qui se doivent d'être changées pour reconstruire les murs de Jérusalem, qu'on pourrait dire. La parole nous dit aussi un avertissement que le jugement que Dieu dit qu'il va arriver un jour commencera par la maison de Dieu. Ça, ça fait réfléchir aussi. Parce que ça dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, « Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Autrement dit, il est en train de nous dire, « Si je vous juge, ceux après qui vont venir après, qui sont les païens, ça va être encore pire. » Alors, le pasteur Martin termine en disant que l'expérience de dénoncer le péché de la mauvaise administration de nos corps n'a pas été une expérience plaisante pour lui. Cela l'a amené à essuyer des critiques acerbes et blessantes. On ne peut jamais dénoncer le péché sans que ça nous amène ça. Ceux qui pensent qu'ils se trompent. Parce que le Seigneur a dit, de la même manière dont ils m'ont traité, ils vont vous traiter aussi. Mets-toi à dénoncer le péché autour de toi, puis ça va t'emmener de la critique, ça va t'emmener même de la haine. Puis on va vouloir te tasser, puis on ne voudra plus t'entendre. L'Esprit dit que dans les temps de la fin, les gens ne voudront plus entendre la saine doctrine, ils se donneront une foule de docteurs pour qu'ils... Il faut réaliser que c'est des choses que le Seigneur a dit, mais qui sont vraies. Cependant, il nous dit, il nous rappelle que le véritable amour consiste à dénoncer le péché sous toutes ses formes, même si elles sont désagréables à entendre. Galates, chapitre 4, verset 16, « En sorte que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. » Le véritable enfant de Dieu ne craint pas de recevoir la lumière d'en haut. Jean, chapitre 3, verset 20-21, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Alors, on va développer au cours des prochaines leçons, des prochaines semaines, nos devoirs que l'on a envers nos corps dans plusieurs aspects. On va regarder ça au cours des prochaines semaines. 1, l'alimentation. 2, les exercices physiques. 3, le jeûne. 4, l'hygiène personnelle. 5, la sexualité. 6, l'habillement. Et 7, les divers facteurs de santé physique et mentale. Alors, on a encore du chemin à faire, là. Mais moi, je pense que on est dû pour ça. En Amérique du Nord, on est dû pour ça au Québec. Et je pense qu'il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, comme le Seigneur nous a dit, si on ne s'occupe pas d'essayer de se repentir par nous-mêmes, c'est lui qui va nous amener des jugements et ça va être plus dur que vouloir s'en sortir par sa grâce. Alors, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne pas mettre en pratique ce que nous savons est un grave péché. Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, Celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Jacques 4, verset 17. Celui-là donc pêche qui connaît le bien et ne le fait pas. Voyez-vous, il y a des péchés de commission, puis il y a des péchés d'omission. Commission, ça veut dire qu'on fait des péchés, mais ne pas faire ce qu'on sait qui est bien, c'est aussi grave qu'un péché de commission. Ça, il faut prendre conscience de ça un moment donné au jour aussi. Alors, deuxièmement, implorons le Seigneur de nous sonder pour nous montrer nos manquements comme administrateurs de nos corps. Troisièmement, n'essayons pas de faire les changements désirés nous-mêmes sans supplier le Seigneur de nous accorder l'aide du Saint-Esprit pour obtenir des victoires durables. Je me souviens d'avoir déjà fait toute une série là-dessus, sur Romains 8, 13, c'était la mortification du péché, tout basé sur ce verset-là. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et pour son soutien dans nos combats. Amen.